Oui, mon lieutenant. Alors, à l'attaque.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Tactique. Vous le savez maintenant, chaque mois nous abordons un sujet qui nous fait tiquer, qui nous énerve, ou alors les tactiques qu'il est possible d'entrevoir pour remédier à nos problèmes de société actuelle. Ce mois-ci, coincé entre le Black Friday et les soldes, il nous aurait été facile de revenir une fois encore sur le monde merveilleux du productivisme. Nous aurions fait l'éloge de l'exploitation de nos ressources infinies et du « travailler plus » pour dépenser plus. Nous avons préféré nous tourner vers autre chose, car lorsque nous abordons les limites, les dérives de notre système actuel, on va souvent nous opposer capitalisme et communisme sans vraiment savoir de quoi on parle. Aussi, pour nous éclairer sur les idées, ou plutôt peut-être sur la vision qu'avait Marx du communisme, sur ce que c'est et sur ce que ce n'est pas, nous recevons Fabien Tarit, maître de conférence et habilité à diriger des recherches à l'URCA, ses domaines de recherche étant Marx et le marxisme analytique, les théories de la justice, le libertarisme de gauche ou encore la crise économique. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Comment abordes-tu d'emblée le capitalisme ou la façon que Marx avait de penser communisme?
Bah pourquoi parler de Marx déjà? Parce que Marx est vieux, c'est un auteur du 19e siècle, 1818-1883 pour le resituer. Mais en même temps, c'est un des auteurs qui a été le plus enterré et le plus ressuscité. Très souvent, on entend ou on lit « Marx est mort », la pensée de Marx, elle vaut plus rien. Et puis à chaque fois qu'il y a une crise majeure qui apparaît, une crise majeure qui éclate, la dernière, la plus importante, c'était la crise qui a fait suite au subprime en 2007, suivie d'une récession en 2008 et en 2009. On lisait dans la presse, y compris la presse économiste libérale, la presse bourgeoise, comme disait économiste, Marx est de retour. Et donc, pourquoi s'acharner à vouloir enterrer Marx et à vouloir ressusciter Marx? Parce que sa pensée, non pas comme un dogme, il faut avoir lu Marx, il faut être d'accord sur tout, il faut le répéter partout, non, mais sa pensée nous aide à comprendre le monde aujourd'hui, à comprendre son évolution. Alors, juste un petit détail, c'est Marx, mais c'est aussi son compère Engels, puisque c'est une des paires d'économistes, une paire littéraire comme l'économie n'a jamais connue. Ils se sont rencontrés très jeunes, ils avaient à peine plus de 20 ans, et toute leur vie, ils ont écrit ensemble.
Juste à ce que tu as dit, est-ce que c'est simple, c'est pas le bon mot, est-ce que c'est facile à la portée de tout le monde de lire Marx et de se faire une première idée de son approche?
Alors, la pensée de Marx peut être abordée de beaucoup de manières. Il y a l'aspect philosophique de Marx, il y a l'aspect économique de Marx, il y a l'aspect philosophique. Mais cela dit, lorsque je discute avec quelqu'un de Marx, lorsque je rencontre des jeunes, et j'enseigne également Marx aux étudiants, le premier texte de Marx que je suggère de lire, ce n'est pas le Capital. Le Capital, c'est assez long, c'est assez fastidieux. Et puis, pour lire le Capital, il faut avoir déjà à la fois une connaissance économique des auteurs qui critiquent, notamment les auteurs classiques. Mais également, il faut connaître la philosophie. Lénine lui-même disait que pour comprendre Marx, il faut avoir compris la science de la logique de Hegel. C'est pas pour dissuader les lecteurs que je dis ça, mais pour autant, pour accéder à Marx, il faut partir des textes plus... Le texte le plus emblématique, le plus facile à lire, c'est le Manifeste du Parti communiste, qui a été rédigé en 1848 comme le programme d'un parti. Et c'est à la fois des éléments d'une critique du capitalisme et s'inscrit aussi dans la polémique qu'il y avait avec d'autres courants. Donc voilà, et cette lecture-là permet de concevoir Marx, le manifeste du Parti communiste, pas tant comme un parti au sens très strict comme les partis existent aujourd'hui, mais plutôt comme une manière de s'organiser pour combattre en direction du communisme. Alors le communisme, qu'est-ce qu'on entend précisément? Le communisme est un des mots qui a connu le beaucoup plus énormément de déboires dans toute l'histoire du XXe siècle. Le communisme est associé à des goulags, à des horreurs staliniennes. Pour autant, Marx se serait très certainement opposé à ça, mais plutôt la pensée marxiste a été utilisée comme un outil idéologique en vue de garantir un pouvoir, puisque la pensée de Marx est celle qui a été utilisée pour porter la révolution russe en 1917 et donc de donner très temporairement, très peu de temps, le pouvoir à la classe ouvrière, qui a été réapproprié très très rapidement par une bureaucratie, et donc il a utilisé le nom de Marx, l'image de Marx, qui était très positive du fait de cette révolution, pour asseoir son pouvoir et au contraire éliminer tous les opposants qui étaient précisément des marxistes. Et donc la pensée de Marx, elle a beaucoup souffert de ça, et pour autant, elle nous donne des clés pour penser le monde d'aujourd'hui, précisément contre la manière dont elle était retournée en son contraire, utilisée comme une superstructure, c'est-à-dire un outil de pouvoir pour garantir la bureaucratie.
D'accord. Là, je repense, parce que j'avais lu un texte que tu nous avais pas envoyé. Donc le premier texte, ça s'appelle « À propos des fondements éthiques de la critique du capitalisme par Marx ». Donc comme je te l'ai dit, je m'y suis pris à deux fois pour le lire, comme celui-ci. Et alors, je sais qu'on avait déjà abordé, mais j'étais plus sûr de la réponse. C'est qu'en fait, expliquer qu'il cherchait à comprendre la contradiction entre un développement prodigieux des forces productives, et la persistance de la misère pour la majeure partie de la population. Et en fait, j'avais été interloqué, c'est qu'on a encore les mêmes problèmes à l'heure actuelle. Et donc, comment pendant 100 ans, on reste avec les mêmes problèmes ? Est-ce qu'il était le seul à voir ce problème-là, ou est-ce qu'il n'a pas su l'exprimer, en fait?
Alors effectivement, cette phrase, elle est assez emblématique de la pensée de Marx, puisque Marx a vécu pendant la révolution industrielle, donc il a vu l'émergence de tout ensemble de progrès techniques extraordinaires, dont la vapeur, le chemin de fer, donc voilà, Marx est un enfant des Lumières qui voyait ça comme un progrès, pour l'humanité, mais en même temps, qu'est-ce qu'il constatait ? Il voyait que la classe ouvrière dans les ateliers, les usines étaient encore émergentes à ce moment-là, vivait dans des conditions absolument misérables. Et donc, il s'est dit, d'un côté, il y a un immense progrès pour l'humanité, et d'un autre côté, l'immense majorité, elle vit dans la misère. Alors, comment se fait-il ? Comment est-ce possible ? Et donc, il s'agit de chercher à comprendre pourquoi. Donc, il y a d'autres auteurs qui lui étaient contemporains, les auteurs qui l'ont précédé, les gens comme Fourier, comme Owen, comme Saint-Simon, les socialistes utopiques, qui essayaient de construire des images d'un monde vivable pour l'avenir. Mais Marx était tout à fait favorable à leur perspective. En même temps, il se disait, oui, certes, mais là, vous êtes utopique. Il les critiquait pour être utopique. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il était utopique ? Ben, vous êtes utopique parce que vous avez une perspective, vous avez un avenir très positif que vous souhaitez, mais vous ne nous expliquez pas comment on y parvient. Vous ne nous expliquez pas quel est le mécanisme de transformation sociale. Donc, si vous ne le dites pas, ben, vous restez dans le monde des idées. Donc, Marx, il dit, ben, pour comprendre ça, il faut creuser la réflexion, la pensée sur le capitalisme et voir qu'est-ce qui, dans le capitalisme, peut faire émerger un acteur, des acteurs ou des éléments qui permettront de changer le monde. Et la réponse que donnait Marx, c'était la classe ouvrière, c'était le prolétariat. C'est-à-dire les travailleurs qui sont exploités, qui souffrent de l'exploitation, qui souffrent du capitalisme, sont eux-mêmes qui sont capables de porter la transformation sociale. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui fabriquent les marchandises, ce sont eux qui fabriquent les richesses. Donc ce sont eux qui ont la main sur l'outil de production. Donc c'est ça le paradoxe, ils ont la main sur l'outil de production parce que ce sont eux qui fabriquent les marchandises, mais d'un autre côté, ils ne sont pas propriétaires. Ils ont la main au sens où ils les utilisent, mais pour autant, ils ne sont pas propriétaires. C'est les capitalistes qui sont propriétaires des moyens de production. Donc, c'est les capitalistes qui décident qu'est-ce qui est produit et à quel salaire c'est produit. Et les salariés, les prolétaires, de l'autre côté, ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils n'ont rien à vendre, si ce n'est leur propre force de travail. Ils ne possèdent rien. Et donc, le seul moyen qu'ils ont de gagner leur vie, c'est de vendre leur force de travail, c'est-à-dire d'être salariés. Et précisément, l'idée de Marx, c'était que les salariés prennent le pouvoir et décident eux-mêmes de leur production. Une production qui soit à même de satisfaire les besoins de la population. D'où la fameuse formule que Marx a empruntée à Louis Blanc, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.
Ouais, il voulait que les travailleurs soient salariés d'eux-mêmes, en fait. Eux-mêmes au sens large, en fait, non ?
Bah, à vrai dire, il ne voulait pas que les travailleurs soient salariés, puisque le salarié implique un rapport de subordination.
C'est pour ça que j'ai dit à eux-mêmes, en fait.
Et donc, ça veut dire qu'ils possèdent, ils soient eux-mêmes propriétaires collectivement de leurs outils de production, de manière à ce qu'ils puissent décider collectivement ce qui doit être produit, à la fois pour eux-mêmes et puis pour que la société soit vivable.
Ouais. À notre époque, il aurait promu l'économie sociale et solidaire, genre coopérative ou SIC ou des formes.
Ouais, exactement. L'économie, alors, l'économie sociale et solidaire peut être interprétée de beaucoup, beaucoup de manières, y compris en incitant les entreprises capitalistes à donner un petit air social et solidaire sur leur affichage. Mais on peut également l'interpréter au sens de Marx, puisque voilà, il s'agit de par exemple, les coopératives sont un outil. Alors Marx, il a pas de schéma, il a pas de modèle, mais seulement les coopératives, c'est une manière pour les salariés, pour les travailleurs de s'approprier leur outil de travail. Voilà. Et en ce sens-là, ça s'inscrit dans les pas de Marx, contrairement au Gosplan et l'économie planifiée, qui est exactement l'inverse, puisque l'économie planifiée revient à remettre le pouvoir qui appartient aux capitalistes à un appareil bureaucratique qui décide à la place des travailleurs. Donc les coopératives sont sans ambiguïté beaucoup plus du côté de Marx que le sont la bureaucratie planifiée. Mm-hmm. Que ne l'est, pardon, la bureaucratie planifiée.
Jean-Marie, ça te fait sourire ?
Non, je suis d'accord. On peut voir dans les coopératives une tentative pour mettre fin, au moins, dans ces institutions, à la séparation du capital et du travail.
Alors après, j'aurais un petit... pas tant un bémol qu'une nuance, mais c'est que les coopératives dans un monde capitaliste ne pourront difficilement survivre. Au sens où le monde capitaliste étant régi sur la loi du profit, et donc c'est sur la recherche du profit, les profits que pourront faire les capitalistes, les coopératives, si elles sont en concurrence avec les capitalistes, ne seront jamais suffisants. Et donc, elles seront mises en difficulté. Donc, les coopératives ne peuvent être qu'une petite partie du capitalisme, mais le capitalisme est, dans la logique même de son fonctionnement, non compatible avec les coopératives.
Oui, mais comme on est dans un monde capitaliste, de toute façon, elles sont plus ou moins obligées de s'adapter, quoi.
Exactement.
Donc, les règles du marché sont les mêmes pour tous, quoi.
Dans le texte, justement, tu expliques la notion de vol. Tu expliquais que pour Marx, l'exploitation n'est pas un vol aux normes du capitalisme.
Alors, exact. On peut voir les choses sous l'angle philosophique comme sous l'angle économique. Sous l'angle philosophique, on distinguera la légalité et la légitimité. Est-ce qu'il est légal pour un capitaliste d'exploiter les travailleurs ? Absolument, puisque les lois des États capitalistes correspondent à ce qui est nécessaire pour les capitalistes de valoriser les marchandises et de faire du profit. La légitimité peut très simplement dire oui, mais les travailleurs sont exploités, c'est injuste, donc les lois du marché, les lois du capitalisme plus exactement, ne sont pas légitimes. Après, on peut voir ça sous l'angle économique de manière un tout petit peu pointue, parce qu'effectivement, dans la circulation, dans l'échange, le rapport salarial est un échange, et donc le salarié fait un échange avec le capitaliste. Il signe un contrat dans lequel il accepte d'être payé une certaine somme, et c'est parfaitement juste du point de vue des lois du capitalisme. À l'inverse, ce que Marx arrive à voir, le phénomène que Marx arrive à construire, plutôt à penser, c'est que l'exploitation, elle n'est pas visible. L'exploitation, elle est dans le travail, et dans le travail, dans la production. À savoir que les travailleurs produisent l'intégralité des marchandises pour une certaine valeur, et la valeur qu'ils perçoivent, c'est-à-dire leur salaire, sera inférieure à la valeur qu'ils ont produite. L'exploitation, elle est là, mais elle n'est pas visible, puisqu'ils sont rémunérés au salaire pour lequel ils ont accepté de travailler.
Ouais. Accepter, c'est un bien grand mot. Mais
ils ont accepté en ayant un seul choix.
Oui, non,
oui, voilà, c'est ça.
S'ils n'avaient pas d'autre choix.
Et puis, on ne leur propose pas un salaire...
C'est-à-dire qu'ils créent plus de valeur que leur force de travail n'en a. Voilà, sans mettre le doigt dans trop de détails sur la théorie de la valeur chez Marx.
Oui, exactement, mais on peut y aller de ce côté-là, précisément, sans rentrer trop dans le jargon, dans le détail. Parce que pourquoi est-ce que les capitalistes payent les travailleurs ? C'est pas une question. Les capitalistes pourraient très bien ne pas payer les travailleurs.
Si, il faut quand même qu'ils les payent pour que ceux-là puissent dépenser l'argent.
Puissent acheter, oui.
Pour que l'argent revienne aux capitalistes.
Avant même cette question-là, il faut qu'ils survivent. Les travailleurs sont payés pour pouvoir continuer à travailler.
Oui, on en aura d'autres des travailleurs. Non, mais je rigole.
Parce que si les travailleurs ne sont pas payés suffisamment pour pouvoir reproduire leur force de travail, c'est-à-dire pour pouvoir manger, pour pouvoir se loger, eux et leur famille, ils ne pourront pas continuer à travailler et être suffisamment productifs pour le capitalisme. Donc le capital, il leur donnait un minimum, un salaire. Alors, la formule a parfois été utilisée de salaire de subsistance, mais ce n'est pas uniquement ça. La valeur de la force de travail, c'est un aspect biologique. Il faut que les travailleurs survivent. Mais il faut également... Il y a également un aspect historique. Un aspect historique parce que le capitaliste est obligé de les payer parfois au-dessus de la subsistance, parce que si les salariés luttent, si les salariés s'organisent, si les salariés se révoltent et obtiennent des hausses de salaire, obtiennent des droits sociaux, ben le capitaliste est obligé de le faire. Mais il le fera de manière forcée. Donc la valeur de la force de travail, c'est à la fois ce qui permet aux salariés de subsister, et puis c'est ce que les salariés ont arraché dans leur lutte. Puisque précisément, Marx l'écrit non seulement l'histoire du capitalisme, mais l'histoire de l'humanité et l'histoire de la lutte de classe. L'histoire de la lutte de classe, parce que nécessairement, il y a des classes, il y a deux pôles opposés entre la classe capitaliste et la classe prolétaire, avec une multitude de positions intermédiaires. Mais il n'en reste pas moins que les capitalistes vivent sur le travail des salariés et les salariés vivent de ce que les capitalistes sont plus ou moins forcés de leur payer.
Mmh. Oui.
Quand tu définis les classes intermédiaires, les gens qui font partie de ces classes-là seront plus tentés d'aller vers le haut ou d'aider les classes populaires,
hein. Alors c'est tout un enjeu historique. Et dans les classes intermédiaires, il y a plusieurs niveaux. Hein. Un cadre supérieur, un ingénieur, c'est pas la même chose qu'un agent de maîtrise. Et pour autant, ils sont classes intermédiaires. À savoir qu'un cadre, c'est quelqu'un qui ne va pas détenir le capital économique. Et pourtant, il aura un certain pouvoir sur les salariés. Et donc, savoir de quel côté ils vont se pencher, c'est un enjeu historique. Et en général, c'est quand les classes intermédiaires, qu'on qualifie de manière un petit peu rapide de classe moyenne, selon le côté où elles se penchent, ça peut faire tourner le résultat de la lutte de classe. Et donc si les cadres, les ingénieurs, les agents de maîtrise, les artisans, les commerçants sont du côté des travailleurs, les travailleurs ont plus de chances de gagner la lutte. À l'inverse, s'ils passent du côté des capitalistes, ils vont la perdre.
Ouais, les cadres, en principe, ils sont quand même plutôt côté patronat que côté travailleurs.
Traditionnellement, oui. Mais après, entre les cadres sup, le patron ou le directeur adjoint de la grande entreprise, ou le cadre moyen, on a des rapports très différents. Et il peut arriver des moments où ils passent du côté des travailleurs, mm-hmm. Ce qui peut faire basculer la lutte.
Ouais.
Mais les moments révolutionnaires sont des moments rarissimes dans l'histoire. Exceptionnel. Et c'est dans ces moments-là, la classe moyenne, elle est du côté des travailleurs.
Oui, parce qu'en fait, elle est plus proche des travailleurs qu'elle est exploitée elle aussi. Donc,
il paraît qu'en mai 68, il y avait le drapeau rouge qui flottait au-dessus de l'ESC de Reims.
Je sais pas, j'étais pas là.
Moi aussi.
Moi non plus.
Bah écoutez, les étudiants d'AgroParisTech, de l'ESSEC et quelques autres qui tout récemment se sont exprimés lors des remises de diplômes pour dire qu'ils voulaient pas de ce monde-là. Mmh. Ils ont été formés pour être des cadres qui soit exploitent pour l'ESSEC ou soit polluent le monde pour AgroParisTech. Ils ont dit nous on veut pas de ça. On veut un monde vivable pour tout le monde. Et donc là, d'une certaine manière, c'est la jeunesse qui a pour vocation à devenir capitaliste ou à se mettre au service du capitalisme se révolte. Mmh. C'est d'une certaine manière, c'est un des actes révolutionnaires de ce point de vue-là.
Et donc, si je résume, Marx, pour sortir de ce problème-là, voulait la fin du travail salarial ou de l'exploitation qu'engendrait le travail salarial.
Bah, c'est une seule et même chose. L'exploitation et le salariat.
Absolument, oui. L'exploitation, le salariat, c'est la forme que prend l'exploitation.
Oui.
Puisque l'exploitation existait sous d'autres formes dans des périodes d'histoire passée. Les paysans étaient, les serfs étaient exploités par leurs seigneurs, les esclaves étaient exploités par leurs maîtres.
Et ils le savaient. Alors que, effectivement, la forme marchande que prend la relation à travers le contrat salarial contribue à voler cette exploitation. Oui.
C'est ça la différence que la différence entre un esclave et un salarié, c'est que l'esclave n'est pas rémunéré sous forme de monnaie, mais en revanche, il est rémunéré parce qu'il est logé, il est nourri et ses moyens de subsistance sont assurés. À l'inverse, le salarié, il est payé, mais il est payé une somme qui lui permet de se loger et de se nourrir. Donc, d'une certaine manière. Et donc, la différence entre l'esclave et le salarié, elle n'est pas tant au niveau de la rémunération qu'au niveau de la liberté. À savoir, le salarié est libre. le salarié est libre de travailler ou de ne pas travailler.
Alors,
le capitaliste n'est pas propriétaire du salarié, alors que le capitaliste est propriétaire de l'esclave. Cela dit, il a le droit de ne pas travailler, mais il n'en a pas la capacité.
Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il n'est pas vraiment libre. Parce que si on était libre, il y a beaucoup de gens qui arrêteraient leur boulot, qui feraient autre chose, quoi. Si on avait le choix, il y a beaucoup de personnes qui choisiraient de plus aller au boulot, quoi. Et là, moi, ce que je trouve à notre époque, c'est que les inégalités salariales entre l'employé ou l'ouvrier et puis son patron, là, on voit le fossé qu'il y a, quoi. Là, il y avait un article, hier, je crois, qui est sorti sur le CAC 40, ils n'ont jamais gagné autant. Quoi, les patrons du CAC 40, ils sont augmentés de 57% l'an dernier, un truc comme ça. Et donc, je ne sais plus, il y avait un dessin humoristique, qui disait, mais de toute façon, le patron, il disait, tu ne peux pas comprendre, lui, il gagnait 369 fois plus que le salarié, quoi. Donc, est-ce que... Quoi, ça, c'est indécent, complètement, comme différence. Parce qu'on ne peut pas dire que ce monsieur, quoi, même, parce qu'ils disent oui, on a des responsabilités, moi j'ai 10 000 employés, machin, hein. Mais sauf que, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi, est-ce que ça vaut vraiment cette différence de salaire, quoi?
Alors, c'est indécent du point de vue de la différence massive que tu évoquais.
De façon éthique, quoi.
Voilà, c'est différent de façon éthique, mais c'est parfaitement cohérent avec la logique économique.
Oui.
Tant du moment où les propriétaires des moyens de production font ce qu'ils veulent des moyens de production, les règles qui existent, qui se sont assouplies de plus en plus au cours des dernières décennies, le permettent de gagner encore plus d'argent. Et donc, quand on donne à quelqu'un la possibilité de gagner de l'argent, il le fait. Et ils s'enrichissent.
Et là, ça pointait aussi le fait que les gens qui sont à ces positions-là, en fait, c'est des fils d'eux ou des filles d'eux. Quoi, c'est leurs ancêtres qui ont monté, je sais pas, genre L'Oréal ou je sais pas, un truc comme ça. Eux, ils travaillent, mais pas.
Ou peut-être leur grand-père qui détient Perenco.
Alors, l'INSEE a tout récemment dévoilé que 80% des milliardaires sont des héritiers.
Oui, voilà.
Donc voilà, la logique selon laquelle c'est le mérite qui est à l'origine de la rémunération, elle est largement réfutée par les faits. Donc les faits, ils nous disent, c'est les héritiers qui s'enrichissent. Mais ça, on le sait toujours, c'était même écrit dans le dernier ouvrage de Piketty, où il donne des chiffres similaires à cela, qui dit que la grande majorité des enrichissements, la raison majeure de l'enrichissement, c'est d'abord les héritages. L'héritage, c'est quelque chose qui est absolument au contraire à l'éthique. Alors effectivement, l'héritage, c'est la transmission d'un patrimoine dans la famille. Donc, l'héritage renvoie également aux valeurs familiales. Et donc, lutter contre l'héritage, ça peut vouloir dire s'affronter aux valeurs familiales. Mais dans une société évoluée, l'humanité n'a pas besoin d'avoir une famille biologique pour s'entendre bien avec son père. Donc, la famille, c'est l'humanité. Mais donc voilà, l'héritage, c'est quelque chose qui sert à reproduire le capital, à reproduire les rapports de domination, les rapports d'exploitation, et donc les inégalités.
Ouais.
Et là, on trouve ça chez Marx aussi.
Je reviens vite fait avant qu'on avance, mais juste pour la différence entre les esclaves et les travailleurs actuels, c'est que je ne sais plus où j'avais lu ça, mais en fait, les esclaves, en fait, leurs propriétaires s'assurer de leur bonne santé pour qu'ils puissent travailler. Alors que maintenant, avec le capitalisme, c'est à toi de t'assurer de toi-même que tu sois en bonne santé pour pouvoir aller travailler.
Ou l'État, quand il y a des systèmes de santé dignes de ce nom.
Non, mais
c'est plus le cas en France maintenant.
Ah, mais là, il faut quand même que c'est... Ton employeur n'a plus à se soucier de ta bonne santé parce que c'est à toi de t'en occuper, en fait.
Alors l'employeur, il est un petit peu contraint quand même, parce qu'une partie du revenu qui est dégagé, l'est prélevé sous forme de cotisations sociales qui alimentent les régimes d'assurance maladie, entre autres.
Oui, quand j'ai dit qu'il ne s'en souciait pas, c'est que si tu n'es pas là, il va te remplacer. Et il n'a pas, il a pas à te soigner, contrairement à l'esclave qui va devoir soigner.
Il peut te mettre en burn-out et tu n'existes plus pendant au moins un laps de temps. Après, tu n'as plus envie d'y revenir non plus. Donc, quoi, tu vois, ça, il ne gère pas ses employés pour les gère pour qu'ils lui fassent gagner le plus de fric possible. ils les gèrent pas pour que en même temps ils aient une qualité de vie au travail qui fasse qu'ils font pas de burn-out quoi.
Alors c'est peut-être le paradoxe entre les intérêts individuels des capitalistes qui ont intérêt à payer le moins possible, et y compris si les salariés sont malades et même meurent, c'est pas grave, on les remplace, et l'intérêt général des capitalistes, puisque les capitalistes ont intérêt à avoir de la main-d'œuvre. Et donc si toute la main-d'œuvre est malade, ils n'auront pas de main-d'œuvre du tout. Et donc le capitalisme sera en difficulté. Et donc les capitalistes individuels s'en fichent complètement de la santé de leurs malades, mais le capitalisme en général, peut-être qu'il a intérêt à faire gaffe. C'est-à-dire peut-être que, pour une certaine raison, qu'il tolère certains filets de sécurité. Le RSA, c'est ça aussi. Le RSA, c'est un filet de sécurité qui... Le RSA, c'est un peu la loi sur les pauvres en Angleterre à la fin du 19e siècle. Bah, pourquoi une loi sur les pauvres ? Pour empêcher que les pauvres fassent de la délinquance. Mmh. Non pas pour venir en aide aux pauvres et qu'ils ne meurent pas. Mais s'ils n'ont rien, les pauvres, ils vont voler. Mmh. Ils vont tuer. Donc l'État a décidé de leur donner un minimum pour éviter ça et pour assurer la paix sociale. Donc voilà, il y a ce paradoxe entre ce que veulent les capitalistes et ce dont la société capitaliste a besoin.
Et pour le système capitaliste, est-ce que avoir du chômage, c'est un filet de sécurité pour eux, pour avoir toujours de la main-d'œuvre, en fait?
Alors ouais, Marx parlait, il avait son propre jargon à lui, et quand Marx parlait de chômage, il parlait d'armée industrielle de réserve. Alors de réserve pour qui? De réserve pour les capitalistes, parce que le chômage, il permet aux capitalistes de diviser les travailleurs. Puisque si le niveau de chômage... Alors, il existe même des modèles économiques qui sont intuitifs, mais qui sont formalisés, qui expliquent en quoi le niveau d'augmentation des salaires est dépendant du niveau de chômage. C'est-à-dire, plus le niveau de chômage est élevé, moins les salaires augmentent rapidement. Pour des raisons qui sont assez simples à comprendre, qui sont assez intuitives, à savoir que quand il y a beaucoup de chômage, les salariés sont beaucoup moins incités à demander des hausses de salaire. Il est très facile pour le patron de dire « Ah, tu veux augmenter tes salaires ?» Il y en a qui sont prêts à bosser moins cher. Et donc là, c'est une manière de diviser. Donc le chômage a cette utilité-là. Donc plus le niveau de chômage est élevé, plus les salaires sont bas. Et c'est des choses qu'on constate. Et on constate on peut comparer entre certains pays, des pays dans lesquels les luttes sont plus élevées, plus fortes. On prend par exemple l'Europe du Sud, en comparaison à l'Europe du Nord, ont des niveaux de chômage beaucoup plus élevés. Parce que les luttes sont plus fortes. Et donc la classe capitaliste a besoin de plus de chômeurs pour empêcher les hausses de salaire. Donc c'est une manière de diviser les travailleurs. Donc diviser les travailleurs entre les chômeurs et les travailleurs. Diviser entre les hommes et les femmes. Les femmes en France sont payées pour même activité 15 ou 20% moins cher, si je ne me trompe pas. Diviser les salariés entre les travailleurs français et les travailleurs étrangers. Donc la propagande anti-immigrée extrêmement violente qui sévit en ce moment, y compris de la part du gouvernement, est une manière, là encore, de diviser les travailleurs salariés, y compris les travailleurs étrangers légaux, peuvent se sentir mis en difficulté par des travailleurs étrangers non légaux qui n'ont pas de papier, et ils n'ont pas de papier, donc ils sont obligés de travailler dans des conditions non légales, travailler au noir.
L'autre fois, j'ai entendu c'était un restaurateur, mais c'était immonde, quoi, parce que lui, il était pour... que les sans-papiers travaillent, parce qu'il dit, mais oui, vous rendez compte, c'est un métier dur, on travaille 7 jours, 7 jours sur 7, mais de où ? Donc forcément, il n'y a que les immigrés illégaux qui peuvent accepter ça, quoi. Tu ne travailles pas 7 jours sur 7, c'est vraiment... c'est complètement inhumain, quoi. On n'est plus... on est au 21e siècle, ouais. On n'est plus...
C'était les conditions de travail du 19e siècle. Mais oui, non, mais voilà. Aucun droit, quoi, tu vois, aucun droit de travail.
J'ai été choquée d'entendre le mec, les autres, de toute façon, c'est des feignants, ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7, quoi. Alors que lui, il travaille 7 jours sur 7, c'est le patron. Bon, et lui, sa boîte, elle tourne bien, et c'est lui qui récolte les fruits de ça. Mais le travailleur, il n'est pas payé plus parce qu'il va venir, parce qu'il ne respecte certainement pas les temps de repos, les heures sup, quoi. Bon, je ne sais pas après comment tu peux payer les gens décemment, en tous les cas, que ça cadre avec le droit du travail, parce que là...
La raison pour laquelle souvent, il est souvent évoqué ces derniers temps des pénuries de main-d'œuvre. Mais ce n'est pas des pénuries de main-d'œuvre en général, sachant qu'il y a 10 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Mais les pénuries de main-d'œuvre existent effectivement dans ce type de métier, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans lesquelles les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et c'est des métiers aussi où ils embauchent des travailleurs sans papier, sans droits sociaux et avec des salaires extrêmement bas. Alors cela dit, le gouvernement récemment a réussi à embaucher, à faire embaucher des travailleurs sans droits sociaux avec les travailleurs, les livreurs Uber et autres. Oui. Où, voilà, ils font le travail des salariés, mais ils ont des rémunérations beaucoup plus basses. Ils n'ont pas de droits sociaux et pourtant ils ne sont pas salariés. Ils ne sont pas salariés au sens strict et pourtant ce sont des travailleurs dont il est difficile de nier qu'ils soient exploités.
Enfant qui court entre les flammes, sous les bruits sourds, les cris d'alarme. Adieu bonheur, douceur tranquille, à nous terreur, exode et exil. Sommes-nous les seuls, sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls, serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Voici le diable venu sur terre, méconnaissable, visage d'un frère. Autant de haine se peut-il encore qu'une âme humaine habite ce corps? Qui lui a vendu toutes ses armes? Qui lui ordonne ses actes infâmes? Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a fille, viens mon ange. Aujourd'hui, nous prenons le large. Cramponne-toi, quoi qu'il arrive. Tu n'échoueras pas sur l'autre rive. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls, serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Oh, refugee, I'm a refugee.
Allez, reprenons. Alors, si je me trompe pas, on parlait travail capitaliste et exploitation. Et donc, comment pourrait-on envisager une société où il n'y aurait plus d'exploitation ? Est-ce que une société sans exploitation est-elle possible et envisageable ?
Alors, si une société est possible, envisageable, c'est un souhait politique. Possible, c'est une question d'action politique, c'est une question de lutte. De lutte parce que, oui, parce qu'il y a une classe qui exploite, une classe qui est exploitée. Et non seulement, dit Marx, c'est pour des raisons éthiques, la classe est exploitée, donc il faut qu'elle, pour mettre fin à son exploitation, il faut qu'elle prenne le pouvoir, mais également pour des raisons de développement historique, au sens où ce qu'écrit et ce que dit Marx, c'est que les rapports de domination sont tels qu'à un moment donné, ils peuvent permettre le développement des forces productives, mais à un moment donné, entraver ce développement. Et ce qu'écrit Marx aussi, c'est qu'à un moment de son développement, le capitalisme va... À un moment de son évolution, le capitalisme va entraver le développement des forces productives. Donc le capitalisme va créer plus de dégâts qu'il ne crée davantage. Et donc là, il s'agit de transformer le monde et de transformer la société. Donc là, par la lutte de classe, par la lutte des travailleurs. Donc avant de s'interroger sur à quoi pourrait ressembler la société de demain, on se demande d'où on vient. D'où on part pour aller vers cette société-là. Donc le communisme, si l'on en croit Marx, va naître sur les cendres du capitalisme. Donc c'est tout le progrès, l'immense progrès qu'a constaté Marx et qu'on a constaté aussi, qui a été réalisé par le capitalisme ou pendant le capitalisme, c'est là-dessus que va s'appuyer le communisme. Donc tous les acquis qui ont été réalisés, notamment en termes de progrès technique, mais également en termes de droits sociaux, parce que les droits sociaux émergent des luttes qui ont eu lieu dans le capitalisme et en raison du capitalisme. Donc le communisme va s'appuyer sur ces éléments-là et en même temps, il va briser les rapports de domination, au sens où ce sont ceux qui produisent les marchandises qui vont détenir les moyens de production et le pouvoir à la fois économique et politique. Donc le communisme, c'est ça, c'est une société sans classe, donc sans rapport de domination. Et le communisme, c'est pas tant l'égalité que la liberté. Parfois, on oppose l'égalité et la liberté, mais il s'agit de savoir de quelle égalité il s'agit. Effectivement, l'égalité... L'égalité du point de vue de Marx, c'est que l'égalité est la capacité pour chacun de satisfaire ses besoins, mais c'est aussi et surtout la capacité pour chacun d'être libre de choisir sa vie. Libre de choisir sa vie, il y a une fameuse formule de Marx dans laquelle il dit que dans le communisme, chacun pourra exercer les activités qu'il souhaite faire. La fameuse formule, c'est chasseur le matin, pêcheur l'après-midi et critique le soir.
Ouais.
Et donc il s'agirait que on a une société où les richesses sont abondantes et ces richesses abondantes permettent à chacun de pouvoir exercer ce qu'il sait faire le mieux. Et quand on fait ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire qu'on aime faire et qu'on sait faire le mieux, on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif que quand on fait quelque chose lorsqu'on est obligé de le faire.
Alors,
par ces temps de changement climatique et de sobriété, qu'est-ce qu'une société d'abondance ? Une société d'abondance est-elle possible ? Ça serait une première question. Puis deuxième question, si on revient un peu en arrière là, sur l'action, le marxisme dans l'action, alors peut-être faut-il éviter d'employer le mot marxiste, mais il me semble que la pensée marxienne aujourd'hui est moins mobilisée que par le passé pour venir soutenir et donner un argumentaire à l'action dans les mouvements sociaux actuels, quoi, que ce soit les écolos, les femmes, les quoi encore. Y a des mouvements aussi, il y a des conflits qui sont des conflits ethniques, des conflits religieux, pas seulement des conflits du travail contre le capital. Quoi.
Oui, effectivement. Alors, la question de l'abondance, c'est une grosse question, parce qu'effectivement, est-ce que l'abondance, c'est on a tous un smartphone et un jet privé, ou est-ce que l'abondance, c'est l'abondance des relations sociales, l'abondance des liens, plutôt que l'abondance des biens, parce que finalement, les biens, c'est assez peu de choses dans nos vies. L'essentiel de nos vies passe par des rapports sociaux avec les uns les autres. Et donc, voilà, ça renvoie évidemment à une réflexion sur la nature des besoins. Et une réflexion qui a été esquissée chez Marx, mais que nous pouvons poursuivre ici. Voilà, de quoi avons-nous besoin pour bien vivre ? Avons-nous besoin ? Est-ce que voilà, alors, je suis pas en train de vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il n'en reste pas moins que ni vous ni moi n'avons jamais mangé de l'or. Ni vous ni moi n'avons pensé or. Les relations humaines qu'on a, elles enrichissent notre vie. Donc les rapports sociaux qui construisent ces relations humaines sont bien plus importantes que les biens qu'on peut détenir, à partir du moment où on arrive à satisfaire des besoins. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir des smartphones? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir des grosses voitures? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de prendre l'avion? Pour tout un ensemble d'éléments, c'est parce que le capital a envie de les vendre.
Oui, voilà, c'est qu'on nous a... Quoi, la société de consommation, c'est ça, c'est de nous faire croire que si on n'a pas le smartphone dernier modèle, la télé, je sais pas combien, 1m10 diagonale et quoi, l'écran géant, bah, notre vie, elle vaut, quoi, on rate quelque chose dans notre vie. Quoi, donc, mais c'est pas... Quoi, heureusement, il reste des gens pour qui...
Il paraît qu'elle ait raté la vie tant qu'on n'a pas de Rolex.
Oui, à 40 ans. Si. Maintenant, ils sont avec un bracelet électronique à 50, donc je suis pas si sûre que ce soit enviable. Mais c'est la société de consommation qui a fait croire aux gens, quoi, laisser penser que bah, voilà, quoi, il fallait avoir toujours le dernier modèle de tout. Quoi.
Je sais pas si elle a fait croire penser, mais je pense que ça a donné un but, hein, aux personnes. En fait, tu combats la personne qui se lève tous les matins en se demandant pourquoi je vais travailler. Si tu lui dis, bah, tu peux travailler pour t'acheter une troisième voiture, au moins elle a un but, en fait.
Bah, même sans troisième voiture ou un iPhone ou je sais,
oui,
pas quoi.
Oui, mais
quoi.
Voilà, mais c'est que tu donnes un but, au moins tu expliques aux personnes, voilà, toute ta vie tu vas travailler pour ça, en fait. C'est un rêve comme un autre.
Parce que voilà, ça revient à dire que seuls les biens matériels peuvent satisfaire notre bien-être. Seuls les biens matériels peuvent nous apporter une bonne vie. Sauf que précisément, ce que dit Marx, c'est exactement le contraire. Avoir des activités diversifiées, avoir des relations diversifiées avec les humains, avec les autres humains, est beaucoup plus riche que d'avoir des biens. Être plutôt qu'avoir, d'une certaine manière. Donc être plutôt qu'avoir, et ça répond également à la question écologique que tu as abordée, puisque... Marx, il écrit quelque part que le capital détruit deux choses, la terre et le travailleur. Effectivement, il détruit le travailleur parce qu'il l'exploite, il raccourcit sa durée de vie, mais il détruit également la terre parce qu'il a besoin d'exploiter la terre pour s'enrichir encore plus. Pourquoi l'Amazone est en train d'être détruite? Bah parce que des agro-industries ont envie de cultiver les terres. Sauf qu'en faisant ça, ils détruisent le poumon de la planète. Et c'est catastrophique. Donc voilà, le capital... À la fois, il exploite les travailleurs, mais il détruit la planète. Et donc après, comment répondre à cette question-là, au sens où il n'y a pas que des biens matériels qui permettent de faire du bonheur et qui permettent de faire du bien-être. Donc c'est un petit peu ça la clé, parce que Marx n'était pas un productiviste précisément. La pensée de Marx a été orientée vers le productivisme, parce que c'est quoi? C'est la production, la course à l'industrie lourde du temps de Staline. Et donc, il faut produire plus pour être plus fort que l'ennemi capitaliste américain. Sauf que là, c'est tout à fait antagonique, parce que précisément, c'est pas la production qui assure le bien-être. La production, elle assure la subsistance. Et donc, en ce sens-là, il faut effectivement rompre avec cette idée que la pensée marxiste est productiviste, au sens où elle a pour vocation à apporter aux individus la liberté de faire ce qu'ils veulent avec qui ils veulent, dans la mesure des rapports humains. Mais le productivisme, c'est précisément le but des capitalistes. C'est le but du capitalisme. À l'inverse, une société qui permet de satisfaire les besoins n'a pas besoin... de produire encore plus à partir du moment où ils sont satisfaits. Alors qu'est-ce qu'on entend par besoin? Encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué, les besoins, ils sont socialement construits. Le besoin d'avoir un smartphone, il est socialement construit. Le besoin d'avoir un jet privé, il est socialement construit. Et c'est en ce sens-là qu'on revient à la philosophie de Marx. La pensée dominante d'une époque, à un moment donné, c'est la pensée de la classe dominante. Donc la classe dominante, elle va essayer d'imprimer l'idée qu'il est nécessaire d'avoir des biens pour être heureux. En réalité, c'est pas pour que les gens soient heureux qu'elle imprime cette idée-là, c'est pour qu'elle puisse vendre les biens qu'elle produit et pour faire plus de plus-value. Et donc, il s'agit d'inverser la problématique. Et s'il y a du productivisme, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le fait que des gens qui achètent ce qu'ils produisent. Et donc, ils ont intérêt à pousser les individus à acheter leur production. C'est en ce sens-là. C'est en ce sens-là que Marx est matérialiste. C'est pas les idées qui font, c'est pas ce qu'on a dans la tête qui va faire le monde, c'est à l'inverse, c'est le monde qui va construire, qui va en gros construire le cadre dans lequel on peut penser. Aussi intelligents soyons-nous, ou pas, eh ben, on pense dans le contexte qui est le nôtre. Et puis, on a des messages et des discours qu'on écoute, et on se révolte ou pas contre ça. Mais globalement, le discours dominant, ce n'est pas le discours de ceux qui sont dominés. Mmh. Et puis, un autre point que tu as abordé, que la pensée marxienne est peu mobilisée, effectivement, elle est peu mobilisée parce qu'elle a beaucoup souffert... beaucoup souffert des catastrophes du XXe siècle, mais également la pensée de Marx, elle doit aller au-delà du simple rapport capital-travail. Marx, c'est pas que l'ouvrier avec son bleu qui parle avec son patron. L'exploitation, elle prend diverses formes. On a évoqué ça un petit peu tout à l'heure quand on parlait des chômeurs et des sans-papiers, mais également tu as parlé de l'émancipation et l'émancipation des femmes. Marx, il disait lui-même que le degré de civilisation d'une société se mesure au degré d'émancipation des femmes. Au sens où le fait que les femmes soient moins bien payées que les hommes, c'est pas un hasard. Je suis pas en train de dire qu'il y a un complot qui existe autour de ça, mais je suis en train de dire que précisément, c'est un outil qui permet de diviser les travailleurs. Il existe encore des discours...
Je ne sais pas si ça divise... Alors, maintenant, peut-être, mais... je ne sais pas si ça divise les travailleurs. En fait, en tant que femme, tu dis... Bah, quoi, tu prends ça un peu comme... un pas de chance, quoi. Tu ne peux rien y faire. Tu vois. Donc, tu dis, voilà, c'est normal. Quoi, c'est pas normal, mais on ne propose rien d'autre. Donc, c'est pour ça que une fatalité, un peu.
Ouais, c'est ça, c'est le terme que j'avais en tête, où on peut le voir comme une fatalité. Et pour autant, les combats féministes qui ont eu lieu depuis plusieurs décennies sont parvenus peu à peu à réduire l'écart.
Ouais, ouais.
Il y a encore un siècle, l'écart c'était simple au double. Aujourd'hui, c'est 15%.
Ouais, ouais.
Peu à peu. Mais si l'écart se réduit au sens où il s'est réduit depuis un siècle, il faudra attendre encore très très longtemps avant de parvenir à une égalité parfaite. Mais encore une fois, je vois plus la différence de salaire injuste entre hommes et femmes, au sens pour le même emploi, comme un outil qui empêche l'unité des travailleurs.
Mais pour le même emploi, il n'y a pas de différence. Hein.
Bien sûr que si.
Alors, vous mettez dans le même atelier ou dans le même bureau un homme et une femme, alors sous réserve qu'ils aient la même durée du travail, ce qui n'est pas le cas, on peut en discuter, sous réserve qu'ils aient la même formation, et donc sous réserve aussi qu'ils font exactement le même travail, dire ils sont rémunérés de la même façon.
Ça passe pas
au prud'homme, quoi.
C'est comme ça partout.
Atterri, Jean-Marie. Si.
Moi, j'avais vu un reportage. C'était une personne. Elle était standardiste. Je sais plus dans quelle banque. Elle avait un collègue homme. Elle avait été embauchée avant. Elle était là 2 ans avant lui. Lui, il est arrivé. Ils ont fait leur carrière. Elle a eu 2 enfants, je crois. Oui, mais enfin, standardiste. On n'est pas, tu vois, c'est pas. Elle a rien raté pendant 2 ans. Elle a pas perdu de compétences.
Son collègue homme, il était standardiste aussi.
Oui, il faisait. Il était, et c'est elle qui l'a formé. Et à la fin de, quoi, il parlait pas de salaire, mais à la fin de elle, quand elle est partie à la retraite, c'est là où ils ont discuté salaire. Et il gagnait, je crois, 25% de plus qu'elle. Pour le même boulot. Là, il n'y avait pas... Tu dis pas, il n'y a pas de pénibilité, il n'y a pas de machin. C'est exactement la même chose.
Mais ça passe pas au prud'homme, ça.
Mais il n'y a pas des grilles... En fait, il n'y a pas des grilles de salaire partout. Hein. Il y a des entreprises qui sont libres de fixer le salaire. Et le fait qu'il y ait une différence entre hommes et femmes, si.
Alors, les inégalités entre les hommes et les femmes, elles sont bien réelles, mais elles s'expliquent par des différences de parcours. Elles s'expliquent
par
les enfants...
Juste un chromosome. Juste un chromosome.
Une division du travail domestique qui...
C'est pas parce que tu t'arrêtes quelques mois d'accoucher et de... Bon, après, reviens, tu fais tes horaires. Et quoi, je veux dire... Il n'y a pas de quoi faire 25% d'écart en fin de carrière, quoi.
Et puis, enfin, parce qu'on ne trouve pas... alors là, tu prends un exemple, effectivement, de deux personnes, un homme, une femme, qui faisaient exactement la même chose. Mais sinon, il y a des domaines d'activité qui sont des domaines d'activité plutôt féminins, d'autres plutôt masculins.
Si on revenait sur notre sujet,
oui, voilà,
parce que là, on pourrait partir sur un autre sujet.
Oui,
ça prendra 2 heures.
Un mot là-dessus, peut-être, parce qu'on n'est pas tout à fait loin de ça, parce qu'il y a deux choses dans ce que vous dites, c'est que d'une part, les différences de salaire tous salaires compris entre mes femmes sont très importants, de l'ordre de 25 à 30%, sachant que les parcours ne sont pas les mêmes, c'est les questions des poupées pour les filles et des voitures pour les garçons, c'est la question de l'études de sciences pour les garçons, études de lettres pour les filles, les métiers qui, sur lesquels elles aboutissent sont beaucoup moins bien payés que ceux des hommes. Mais même si on nivelle et qu'on annule toutes ces variables-là, on est toujours sur une différence de 10 à 15% pour des qualifications équivalentes dans des secteurs équivalents.
Donc, compter le manque de crédibilité de des femmes dans certains milieux.
Donc... dans un cadre de pensée marxiste, marxien, si tu veux, on va expliquer ça par la division des travailleurs, l'exploitation du travail féminin, pour mieux diviser les travailleurs. Pour ce qui concerne l'écologie, tu as dit, et tu as raison, un capitalisme destructeur de l'environnement, pour mieux exploiter les ressources productives, quoi. Oui, vas-y, écoute.
Moi, j'ai d'ailleurs tendance à penser que la lutte de classe, l'écologie, pardon, sans la lutte de classe, c'est du jardinage. Parce que si on laisse les capitalistes détruire l'environnement sans changer les causes qui ont conduit à la destruction de l'environnement, ça ne sert strictement à rien. Donc, ok, on va trier nos déchets, on va éteindre le Wi-Fi pour notre Internet. Je vais même penser un jour ou l'autre à débrancher le frigo qui est dans mon jet privé pour sauver l'environnement. Mmh. Donc voilà, là, effectivement, on est plutôt de l'ordre du jardinage. Donc, il faut, pour changer le monde, y compris pour améliorer l'environnement, pour sauvegarder l'environnement, il faut en finir avec le capitalisme. Mais c'est pas lorsque Coca-Cola sponsorise la COP27 qu'on est vraiment dans ce sens-là. On est plutôt dans le sens inverse. Ils font même plus semblant. Le fait que Coca-Cola sponsorise quelque chose qui est censé défendre l'environnement est plutôt de la provocation.
Moi, je voulais revenir par rapport à la société telle que Marx pouvait l'envisager. Comment, parce qu'en fait, on supprime l'exploitation, on supprime la domination. Et donc, je milite pour un revenu de base et c'est une question qu'on me pose souvent. Comment tu empêches les gens de ne rien faire ? Ou alors une société où personne ne fera plus rien ?
Alors, ça veut dire quoi ne rien faire ? Ça veut dire quoi ne rien faire ? Est-ce qu'aller au cinéma, c'est ne rien faire ? Est-ce que faire la cuisine, c'est ne rien faire ? Est-ce qu'écrire des livres, c'est ne rien faire ? Est-ce que passer du temps avec ses amis ? Est-ce que passer du temps avec ses enfants, c'est ne rien faire ? Est-ce que penser pour des gens qui sont très compétents en sciences et en techniques, penser à une forme d'énergie qui soit plus vivable et qui devance moi, c'est ne rien faire ? Marx, en tout cas, la position de Marx, c'était de dire que la vie d'un homme, la vie d'une femme, c'est l'action. Dans la vie, on agit. Parce que ne pas agir, c'est ne pas vivre. Donc ne rien faire, ça veut dire quoi ? J'ai du mal à saisir ne rien faire. Parce que, en fait, ça tient aussi au fait que, peut-être par ne rien faire, on entend le loisir. Mais là, on est dans une société dans laquelle le travail ne sera plus une contrainte. Donc la différence entre le travail et le loisir... Elle disparaît, elle explose, au sens où les individus, ils font ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils aiment faire. C'est ça l'idée. Alors effectivement, ça nous paraît très très loin. Et puis il y aura toujours des activités qui devront être faites. Voilà, il y a des activités difficiles, des activités qui sont moins faciles que d'autres. Et donc qui va les faire, celles-là ? Qui va aller faire celle-là. Alors après, il n'y a pas de schéma, en tout cas pas chez Marx là-dessus, mais ça peut être quoi ? Ça peut être une rotation, une heure par jour, chacun fait le travail que personne n'a envie de faire.
Mais tu peux peut-être trouver des gens qui ont envie de faire un travail même dur, quoi, tu vois ? Pourquoi
très,
pas ?
Très certainement, c'est bien possible.
Un maçon, il peut aimer son travail.
En revanche, c'est possible, parce que le maçon, le maçon, s'il est propriétaire lui-même de son outil de production, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui s'il fait ce qu'il fait, il a envie de faire, ça peut tenir à ça. Après, il y a quand même un certain nombre d'emplois qui sont peut-être plus durs que d'autres.
Oui, bien sûr.
Difficile, un éboueur, c'est compliqué, peut-être qu'on aura moins de volonté que pour être artiste ou...
Non, c'est ta façon de voir, mais... Je suis sûr que tu as des éboueurs et ils s'en fichent de ne pas être artiste.
Ou des choses qui sont plus intéressantes.
Oui, mais...
L'éboueur, c'est un exemple que je prends là, mais simplement, ouais. C'est fait référence à un certain nombre d'activités que moins de personnes souhaitent faire. Et donc là, il s'agira de les répartir. Mais alors, ne rien faire, je ne pense pas. Je pense qu'on est toujours productif. Là, tout de suite, est-ce qu'on ne fait rien ? Là, tout de suite, on est en train de faire une émission de radio où on a un échange sur diverses idées. Est-ce que c'est ne rien faire? Non, là, on diffuse du savoir. On diffuse du savoir qui sera écouté par les auditeurs. Et ça fait part. On fait société de cette manière-là. Mmh. Donc là, on ne fait pas rien. Une mère ou un père qui nourrit son enfant, il fait quelque chose. Parce qu'il aide son enfant à grandir.
Oui, non, mais là, pour beaucoup de personnes, ne rien faire, c'est juste ne pas avoir d'emploi salarial. Point.
En fait, ouais, dans le fond, c'est ça, l'activité, c'est pareil de la subsistance. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un travail, en particulier salarié, pour pouvoir survivre.
C'est ça. Et donc, tu fais ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce que tu as envie de faire. Et ça peut changer tous les jours, toutes les heures. Et sur quoi tu voudrais terminer, Fabien?
En l'occurrence, oui, Attac s'intéresse pas mal à l'économie. Et il se trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de la pensée économique de Marx.
Pas faux.
Et résumer la pensée économique de Marx dans les quelques minutes qui me restent me paraît assez illusoire, mais peut-être dire en deux mots que si Marx a écrit 3000 pages, a passé les 20 dernières années de sa vie à écrire 3000 pages sur l'économie et sur le capitalisme, c'est précisément parce qu'il avait pris conscience du fait que, ouais, il faut changer le monde, ok. Mais la pensée ne va pas permettre de changer le monde. Et donc il faut changer le monde de manière matérielle. Et pour changer le monde de matière matérielle, il faut le comprendre, c'est-à-dire le capitalisme. Et donc, il faut comprendre quels sont les fondements à l'articulation du fonctionnement du capitalisme pour comprendre là où le bât blesse, et pourquoi le capitalisme va à sa fin, et pourquoi il faut le transformer. Il a passé la fin, près d'un tiers de sa vie là-dessus. Et précisément, voilà, il s'est appuyé sur les économistes classiques, les économistes de son époque, pour les retourner à leur contraire. Voilà, il était confronté à des auteurs qui disaient... voilà, le capitalisme, il est comme ça, et soit il va se développer de manière harmonieuse en croissance jusqu'à l'infini, type Adam Smith, ou alors on va parvenir à un état stationnaire, que dit Ricardo ou Sismondi, mais c'est peut-être pas si mal que ça. Mais le capitalisme est forcément stable à une reproduction qui lui permet de survivre. Et Marx, il renverse cette logique-là en disant qu'au contraire, le capitalisme, il est porteur de ses propres contradictions, et il va s'effondrer. Il va s'effondrer, et s'il peut s'effondrer de manière odieuse, les marxistes par la suite ont dit socialisme ou barbarie, ça c'était Rosa Luxembourg, la barbarie, elle a existé pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle existe encore par bien des endroits, et le socialisme c'est l'alternative contre ça. Et donc c'est en partant d'une analyse économique que Marx a dit, oui, si le capitalisme va s'effondrer, il faut le remplacer par autre chose. Et donc il y a toute la question de la baisse du taux de profit, donc le capitalisme n'est pas capable d'assurer un profit pour tous les capitalistes, donc le capitalisme va viser, parce qu'à force de remplacer les travailleurs par des machines, le capitalisme il se prive précisément de ce qui lui permet d'avoir de la richesse, à savoir les travailleurs. Et donc il creuse sa propre tombe.
Ouais. Cool. Si le capitalisme s'autodétruit, royal.
On n'a plus qu'à le pousser un peu dans le trou et puis c'est bon.
Il faut peut-être qu'on ait une alternative parce qu'on risque de tomber avec lui sinon.
Ouais, c'est ça le problème.
Là, on va devoir s'arrêter, mais tu reviens quand tu veux. Moi, c'est avec plaisir.
Ça sera avec plaisir également, sachant qu'effectivement, si on n'a pas parlé spontanément des questions économiques comme ça, c'est que l'économie est un petit peu plus austère que de parler de politique, d'environnement ou de lutte.
Oui, ouais. C'est
mais on peut la lire de manière différente.
Ça marche. J'espère que nos auditeurs, auditrices auraient été contents de l'émission. Avant que j'oublie, le jeudi 8 décembre à 20h30, Attac organise avec l'Opéra un ciné-débat sur le film La Très Grande Évasion, sur l'évasion fiscale. Je pense que vous allez apprendre plein de trucs et bien rigoler. Et on se retrouve le mois prochain pour parler des retraites. À bientôt. Ciao.
Au revoir.
Oui, au revoir.
Au revoir.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et sa moteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Radio Primitive.